Donc, ce matin, on va faire une rétrospective de un petit peu de ce qui s'est passé en 2016, mais non, ça, c'est pas tout de suite, c'est plus tard. Mais juste avant, on va parler de fleurs, de plantes. Ça va être un bouquet de toutes sortes d'affaires aujourd'hui. Donc, en premier lieu, j'aimerais vous dire un peu ce qui m'a stimulé à préparer ce genre de message-là qui est un peu inhabituel. C'est que il y a à peu près un mois et demi de ça, peut-être deux, on a eu une rencontre, quelques-uns de ceux qui enseignent au collège biblique. C'est une rencontre qui a eu lieu chez Félix Poléus un samedi matin. Puis on était, je ne sais plus combien, puis on jasait d'école biblique, puis de formation, puis tout ça. Puis ça fait 30 ans qu'on fait ça, et plus même. Le premier cours biblique que j'ai pris, moi, c'est l'année où, de mon salut, en 1983. Fait que ça fait 34 ans, quoi. 33, 30, en tout cas, dans ce coin-là. Et puis depuis ce temps-là, il y a toujours eu des cours. Et puis, ce dont on parlait ce samedi matin-là, c'était... c'est comme si on se rappelait les grosses années d'école biblique. Puis, tu sais, il y a eu des années qu'il y avait 200-300 personnes qui suivaient des cours. Ça fait que vous aviez la gang du dimanche à l'église. Et la semaine, ils étaient tous là au cours biblique. Et puis, ça a été particulier, notamment dans la période du cours d'éthique, que Pasteur Jeff a commencé à donner en 1988, pour ceux qui étaient là, qui se souviennent, qui a été réédité en plusieurs versions. Le cours, maintenant, qui est disponible sur Internet, c'est la version 94. Mais donc, 6 ans avant, c'est là que ça avait commencé. Donc, on parlait de ces années-là, mais on en parlait avec nostalgie. Vous savez comment est-ce que c'est? On aime ça se rappeler que dans le temps, on faisait ça, puis dans le temps, tout le monde était là. Puis, tu sais, dans ce temps-là, tout le monde priait. Puis, dans ce temps-là, tout le monde évangélisait. Fait que finalement, dans ce temps-là, c'était dans ce temps-là. Et la discussion aurait pu être trop nostalgique et nous faire entrer dans quelque chose de dire « Ah, mais tu sais, aujourd'hui, les gens, quand on commence à prêcher, ils quittent l'église. » Donc, je pensais qu'il s'en allait lui parler. Je voulais me servir de lui, ça n'a pas marché. Bon. Donc, vous savez, on aurait pu entrer dans cette espèce de quelque chose d'un peu négatif et d'amoindrissant, de dire, bon, tu sais, aujourd'hui, il y a moins de personnes qui suivent des cours bibliques, par exemple. Il y a moins de personnes qui assistent aux rencontres de prière. Il y a moins de personnes dans toutes, mettons. Donc, on a drivé un bout de temps à se dire ça jusqu'à ce qu'à un moment donné, la discussion a comme pris un virage. Ce virage-là, c'était... oui, mais dans ce temps-là, on ne faisait que ça. C'est-à-dire qu'on allait à l'église le dimanche, il y avait une rencontre de prière la semaine, puis il y avait un cours biblique, puis c'était pas mal tout ce qu'on faisait. On allait évangéliser aussi. Donc, l'église tournait autour de quelques activités. Il n'y avait pas de mission extérieure à l'époque, bien qu'il y avait eu quelques voyages en Haïti, mais ça impliquait toujours 2, 3, 4 personnes à l'époque. C'était pas beaucoup de monde qui y allait. Dans l'église, le portrait social de l'église, c'était une église célibataire. On était majoritairement des jeunes âgés entre 16 ans, 17 ans, jusqu'à 27, 28 ans. Là, quand tu avais 28, 29 ans, tu commençais à avoir l'air vieux. Là. Je vous dis, moi, je me souviens, Pasteur Jeff avait 25 ans, moi, quand je suis arrivé. Moi, j'en avais 21. Puis, il y avait des gens dans l'église qui venaient de d'autres églises qui étaient sauvés depuis 10 ans. Puis nous autres, 10 ans, ça fait 10 ans qu'il est sauvé. 10 ans, c'était comme, ça fait donc bien longtemps que t'es sauvé. Tu sais, nous autres, ça faisait quelques mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, puis Pasteur Jean, ça faisait 8-9 ans, là, tu sais, c'était vraiment un autre univers pour nous. Tout ça, c'était nouveau, l'Évangile, la Bible, on lâchait nos blondes, nos chums, la musique, les bars, on lâchait tout. Puis c'est une très bonne chose à lâcher en passant, là, mais... il y a beaucoup de lâches encore. Mais je veux dire, c'était comme, il y avait de la clarté, il y avait, c'était des années bénies. Mais c'était dans ce temps-là. Puis, quand on pense au passé, vous savez, on a tendance, historiquement, à toujours voir le passé comme étant angélique. Comme si, dans ce temps-là, tout roulait, tout allait très bien. Et là, Pasteur Jeff, dans cette rencontre-là qu'on a eue, nous dit, il dit, ça allait très mal, mais vous le saviez pas. Il dit, il y avait plein de problèmes. Il y avait plein de gens qui vivaient tout croche, puis plein de patentes. Puis... Il dit, peut-être que c'est juste que vous vous souvenez pas de ces moments-là, mais il dit, moi, je m'en souviens. Je dis, ah, c'est intéressant. Et là, ça a développé une discussion autour du fait que, peut-être qu'aujourd'hui, l'allure est extrêmement différente, puis c'est autre chose, et la discussion a tourné vers la diversité de ce qui se passe maintenant. C'est-à-dire qu'on découvre qu'il n'y a pas moins de gens qui s'impliquent, mais on a élargi le champ de possibilités d'implication de toutes sortes, qui fait que c'est pas vrai que c'est moins, c'est plus, mais c'est plus et plus large. Donc moi, quand je suis sorti de cette brunch-là, je me suis dit, ça serait vraiment intéressant d'étudier et de faire une étude qui relèverait ce qui se passe aujourd'hui. Donc, ce que j'ai fait auprès des membres du CE, le CE, c'est le comité exécutif de l'Église, on pourrait appeler ça des diacres, en fait, c'est vraiment ce que c'est. C'est tous les responsables qui ont une charge précise dans l'Église, et je leur ai demandé de m'envoyer les statistiques de ce qui se passe dans leur ministère, c'est-à-dire combien il y a de personnes qui s'impliquent avec eux dans ce qu'ils font. Et on a répertorié en tout 21 ministères aujourd'hui, ici. Et c'est assez fantastique de voir les chiffres que ça donne. Donc, je veux que vous compreniez que j'amène pas ces chiffres-là comme juste, comme si c'était une manière pour nous ou pour moi de se glorifier en disant, voyez comment on est bon, puis on fait toutes ces choses-là. Moi, j'associe ça vraiment à la bonté et à la grâce de Dieu. Parce que tout ça, ça se passe, puis on s'en rend plus ou moins compte. C'est quand on s'arrête pour observer, regarder, puis analyser ce qui se passe, qu'on est estomaqué un peu du nombre d'affaires qui se passent ici, du nombre de personnes qui s'impliquent parmi vous. Donc, c'est vraiment une bénédiction. Je savais qu'on avait une belle église, mais là, je le sais encore plus après cette étude-là. Donc, c'est ce qu'on va vous présenter ce matin. Mais juste avant, j'aimerais vous montrer une photo d'une plante. C'est le volet horticole que je veux commencer en 2017. Donc, je ne sais pas s'il y en a qui vont reconnaître cette plante, celle-là. Ça vous dit quelque chose? Une amarante. Ah, vous connaissez les amarantes? Hein? Ah oui, bon, c'est ça. Donc, l'amarante, mieux connue sous le nom aussi Amaranthus, est une fleur aux particularités assez intéressantes. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que si vous avez... Il y en a-tu qui n'ont pas le pouce vert ici, qui sont vraiment poches en horticulture? Bon. Selon les lectures que j'ai faites, si jamais vous décidez de vous faire un jardin d'amarante, il faudrait vraiment que vous soyez poches pour manquer votre coup. Ces plantes-là, paraît-il, c'est intuable. Vous pouvez les négliger à l'excès. Et c'est pour ça que certains appellent cette plante-là les immortelles. C'est pas tuable. Donc, c'est une plante fantastique. Les Aztèques, là, paraît-il, je pense que c'est en Amérique du Sud, c'est là qu'il y en avait beaucoup. Donc, on peut manger cette plante-là, on peut faire des médicaments avec ça, on peut faire plein d'affaires. Et certains considèrent cette plante-là comme une mauvaise herbe. Ça pousse dans certains pays, ça pousse partout dans notre eau, ça fait qu'on fait avec. L'amarante. Ici, on voit pas bien la couleur, mais normalement, c'est un rouge assez vif. Là, ici, elle sort un peu rouge vin, mais en fait, c'est rouge, là. Puis, il y en a plein de variétés. Donc, c'était le volet horticulture en ce début de 2007. Maintenant, tournez dans 1 Pierre, chapitre 1. Là, vous êtes en train de vous demander pourquoi... Ça sera pas long qu'on va comprendre le lien entre cette plante et Dieu. Dans 1 Pierre 1, 5, je lis « Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, et à l'Église, la Bible parle de Laval au Québec. » Avez-vous ça, vous, dans votre version? Moi, j'ai ça. C'est quoi, toi, t'as dans ta version de ce verset-là? Et qui sont élus? Oui. Et à l'Église, la Bible parle au Québec. C'est intéressant. Hein, la préscience de Dieu, hein? Qu'est-ce que ça... Non, c'est juste un clin d'œil que je voulais faire, loin de moi l'idée d'ajouter à l'Écriture. C'est juste pour montrer que dans cette lettre-là, l'apôtre Pierre, salue des gens de différents endroits. Donc sa lettre s'adresse à des gens en particulier, mais pas en particulier dans un lieu. Puis j'ai décidé, pour le plaisir de la chose, de l'apprendre un peu pour nous, cette salutation-là. Parce qu'en saluant des gens de différents endroits, parce qu'il va dire qu'ils sont étrangers et dispersés. Et il y avait des gens à l'époque de Pierre qui étaient dispersés dans ces endroits-là, et on fait partie, nous aussi, de ces dispersés-là. On est juste dispersés ailleurs sur un autre continent 2000 ans plus tard, mais l'apôtre Pierre serait sans doute heureux de nous le dire à nous aussi, ce qu'il a dit à ces gens-là. Donc, verset 2, « Et qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père, selon ou par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. » Donc, à tous ces gens-là, les élus de Dieu, les sanctifiés par Dieu, appelés selon sa préscience. Il y a du stock théologique là ici, là, vraiment. Là. À eux, Pierre leur souhaite que la grâce et la paix vous soient multipliées. Donc, c'est ce que je nous souhaite à tous, comme communauté chrétienne ici, la Bible parle à Laval, pour l'année 2017, que la grâce et la paix nous soient multipliées. Et c'est intéressant parce que le mot « multiplier » communique l'idée d'une abondance. Pierre souhaitait pas juste un peu de paix, un peu de grâce, mais il en souhaitait avec énormément d'abondance. Verset 3, il dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. » Encore un passage rempli de stock théologique. Notamment, il parle de notre régénération. Le mot utilisé ici, c'est un mot qui pourrait être traduit autrement par la nouvelle sorte de vie, la nouvelle genèse, la nouvelle vie. On est régénéré. Paul utilise un mot différent dans sa lettre à Tite au chapitre 3. Nous avons été régénérés par le Saint-Esprit. C'est un autre mot, mais ce sont des mots qui ensemble veulent dire toujours expressément un peu la même idée. C'est qu'on est né de nouveau. Nous, chez les chrétiens, né de nouveau, c'est devenu une rimette qu'on se dit. En anglais, on dit des born-again, des nés de nouveau. Mais je ne suis pas certain qu'on réalise la richesse qu'il y a derrière cette expression-là. Ça ne veut pas juste dire une seconde chance de réussir mieux une vie qu'on a scrappée dans notre première version adamique, là. Mais la régénération implique l'idée que cette ancienne vie en Adam, devant Dieu aujourd'hui, elle a été mise à la croix et elle est morte. Et il nous a été donné une nouvelle sorte de vie, d'où l'idée naître une nouvelle fois, naître de nouveau. Donc, on est aujourd'hui dans vraiment une nouvelle sorte de vie. C'est fantastique ce que Paul, c'est tout le temps Paul, c'est Pierre. Et il va poursuivre en disant, « Et tout ça nous a été donné pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. » Et les prochains mots sont importants. Un peu comme Paul le fait dans certaines de ses lettres, Tu sais, cette habitude qu'ils ont de répéter, de trouver des synonymes pour redire, redire et redire une chose importante pour être certain qu'on capte bien la qualité de ce qu'ils sont en train de dire. Il va dire, c'est pour un héritage. Maintenant, voyons la nature et la qualité de l'héritage en question. Le mot héritage parle de posséder. C'était utilisé comme posséder une maison qu'on reçoit en héritage. Le verbe, le mot ici, pas le verbe, mais le mot grec pour héritage. Donc, pour un héritage qui ne peut ni corrompre. Corrompre, on pourrait associer toutes sortes d'images à ce mot corrompre, mais rouiller serait un excellent mot. Il n'y a rien qui ne rouille pas ici-bas. Vous pouvez construire ce que vous voulez. Moi, je me suis construit un super beau patio, là, il y a 3-4 ans. J'ai pris du bois de cèdre rouge. Parce qu'on m'a dit que ce bois-là ne se corrompt pas. C'est faux. En fait, il est beaucoup plus résistant. Mais quoi qu'on fasse ici-bas, ça use, ça se corrompt, dans ce sens-là. Donc, ce que Pierre est en train de nous dire ici, c'est que l'héritage du salut, de cette régénération-là dont on est l'objet par notre élection, c'est un héritage qui est incorruptible. Ça n'a rien à voir avec ce qui vous entoure. Vous êtes comme un bâti sur un métal inrouillable. On pourrait le tremper dans n'importe quel acide, dans n'importe quelle cochonnerie, de le faire paraître au soleil après ça pour que ça sèche. Il n'y aura pas un milligramme de rouille qui va pogner après ça. C'est la qualité du salut qu'on a. Qui ne peut ni se corrompre, ni souiller. C'est comme si juste l'usage du mot « corrompre » suffisait à nous faire comprendre l'idée que Pierre a, mais il va dire « ni souiller ». On a un mot ici dans le texte original qu'on connaît bien au Québec à cause des mines d'amiante, asbestos. Parce que le mot ici pour souiller, c'est « amiantos ». Donc, un autre produit qui ne brûle pas, qui ne se corrompt pas, de l'amiante. Évidemment, l'image est toujours imparfaite dans le langage. Mais on comprend l'image que l'apôtre cherchait à avoir, c'est de trouver le matériel qui peut le plus résister à n'importe quoi, qui était l'amiante, qu'on connaissait à l'époque. Bien, il dit, notre salut, il est fait en amiante. Il ne brûle pas. On ne peut pas le souiller, on ne peut pas le salir, on ne peut pas le contaminer d'aucune façon. Et le troisième mot, ni flétrir. Quel est le mot, à votre avis? Pour flétrir. Pensez-y comme il faut. Retournez 10 minutes en arrière. Et c'est quoi la plante? Amaranthos. Oui. Le mot ici, c'est amaranthos dans le texte original. C'est flétrir, donc quelque chose qui ne peut pas se flétrir, qui ne fane jamais. C'était une particularité de cette plante-là qu'on disait, évidemment, dans la réalité, cette plante-là a une fin, elle peut finir par mourir, mais on va rechercher l'image de cette idée de cette plante qui n'est pas tuable, qui est une immortelle, qui ne fane point. Donc, c'est la qualité du salut. Je termine cette introduction, cette deuxième introduction, en fait. Pour vous dire que ce que Pierre nous dit après avoir élevé le niveau de qualité du salut, puis sa qualité, on pourrait dire presque physique de ce salut, il va dire « Lequel, tout ça, vous est réservé dans les cieux? » C'est intéressant, ça. La pire chose qui pourrait nous arriver, c'est que notre salut soit terrestre, nous soit réservé sur la terre. C'est-à-dire qu'il serait entre vos mains. Si votre salut, mon salut, est entre mes mains, on le perd, c'est sûr. On est tout ce qu'il ne faut pas être, c'est-à-dire qu'on est corrompu, on est rouillé, puis on est flétri. Dans ce qu'on est humainement parlant en Adam, là, on a tout ce qu'il faut pour gâcher. Donc, Dieu étant plus wise que nous, nous a donné un salut qu'on ne peut pas corrompre, qu'on ne peut pas flétrir, qu'on ne peut pas rouiller, qu'on ne peut pas souiller. Et en plus, ce dépôt-là, il ne l'a pas laissé ici. C'est un dépôt qui nous attend, qui nous est réservé dans les cieux. Et ce n'est pas tout. Dans les cieux, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés. Ce n'est pas votre puissance à vous qui vous garde. Ce n'est pas votre dynamis à vous qui vous garde. Vous êtes gardés. Ce n'est pas nous qui portons Dieu. C'est Dieu qui nous porte. C'est une entrée en matière dans cette lettre de Pierre qui est tout à fait vraiment magnifique. Vous ne trouvez pas? Vraiment, c'est fantastique. Donc, c'est en quelque sorte le souhait qu'on va se faire cette année, qu'on va se donner, que la paix, que la grâce et la paix nous soient multipliées. Et la grâce qui devrait nous être multipliée, c'est précisément la grâce de ce salut qui est expliqué ici en détail avec toutes les particularités et les protections que ça nous donne. Je me sens comme si c'était à pleine lune aujourd'hui. Je ne sais pas si vous vous retournez. Tournez-vous, vous allez comprendre ce que je veux dire. C'est ça. Il y a des gens qui trippent sur les prophéties lunaires ici. On en a deux lunes. Ça, y a-t-il un texte qu'on peut accoler à ça? OK, donc, dans l'année 2016, j'ai répertorié, c'est passé plein de choses ici, puis, et la raison pour laquelle on vous en parle, c'est aussi parce qu'il y a quand même beaucoup de nouveaux dans notre Église au cours des dernières années, et des fois, je me rends compte que c'est pas tout à fait évident de savoir ce qui se passe, puis à quoi on peut participer, puis dans quoi on peut s'impliquer. Et puis, donc, j'ai choisi d'en parler plus en détail aujourd'hui. Juste pour vous dire, dans l'année qui vient de passer, il y a eu, l'année passée, ça avait commencé par, comme ça commence à chaque année, à la Bible parle, c'est toujours un voyage en Haïti. Donc, à chaque année, c'est comme ça. C'est toujours une bénédiction de voir Pasteur Jeff, Pasteur Clermont et un bon groupe de notre Église, mais également de plein d'autres Églises qui partent. En Haïti. Cette année, ils sont encore partis. Ils ont quitté mercredi passé. Écoutez, ils étaient 75. On était là le matin à 5 heures du matin à l'aéroport Montréal-Trudeau pour leur départ. Puis c'était merveilleux parce que cette année, il y a comme un buzz supplémentaire qu'il n'y a pas les autres années. C'est-à-dire que toute la question de la reconstruction qui est due à l'ouragan Matthew, ça a comme causé des dommages tels qu'il y a beaucoup de gens qui ont été touchés. Puis le nombre de jeunes qu'il y avait à l'aéroport mercredi matin, j'étais vraiment surpris de voir ça. Puis c'était béni de les voir partir. Puis et comme Michel nous disait, ça ne sera pas une année aussi facile que les autres en Haïti. Il y a l'avant-ouragan, puis il y a l'après-ouragan. C'est pas la même chose à Haïti. Il y a des tensions supplémentaires, des problématiques nouvelles avec lesquelles ils vont devoir composer là-bas. Donc, on vous demande très sérieusement de garder notre équipe en Haïti. Ils sont 75 en ce moment, de prier pour eux. Dans deux semaines, il y en a une partie qui revient. Il y a un autre groupe qui retourne là-bas pour se joindre à ceux qui restent. Donc, ça va quand même être très important. Il y a eu ça l'année passée. Il y a eu, je vous donne ça un peu, pas nécessairement en ordre, on a fait une retraite pour hommes l'année passée également. On s'est retrouvé 90 hommes dans un camp qui est situé... Comment ça s'appelait, cette affaire-là? La Villa du Carmel, oui, c'est ça. Donc, encore là, ça a été vraiment une bénédiction. Cette année, on aimerait ça peut-être faire une retraite pour les dames aussi, en 2017, ça serait intéressant. Il y a eu, comme à chaque année ici, la fête des villageois. À tous les mois d'août, il y a 400-500 personnes du quartier qui viennent ici à notre église, notamment dans le stationnement. On installe des jeux, puis toutes sortes de choses, un casse-croûte. Et puis pendant une journée de temps, il y a des jeux gonflables, les enfants s'amusent. C'est vraiment, vraiment une super journée. Et j'ai remarqué que depuis plusieurs années, à chaque fois que cette journée-là arrive, il fait le soleil de l'été, cette journée-là. Hein? Et la chaleur. Mais c'est ça qu'on veut. Parce que vous savez, quand vous montez sur la piscine, on a une piscine, là, vous lancez une balle de baseball, tombez dans la piscine, t'es content qu'il fait chaud. On manque pas de candidats pour aller sur sa palette. Il y a également eu, cette année, quelque chose qu'on a essayé pour la première fois, c'est une semaine de jeûne et prière. Et croyez-moi, cette affaire-là, ça a levé beaucoup. On savait pas trop ce que ça donnerait, mais pendant une semaine de temps, ceux qui étaient là, vous vous en souvenez, l'église était ouverte de 5 heures le matin jusqu'à 10h, 11h le soir. Et pendant toute la journée, il y a des gens qui venaient, qui repartaient. Les gens venaient lire leur Bible, venaient prier. Il y avait quelques petites études bibliques très improvisées qui se faisaient. Il y a eu du monde à tous les jours, à toutes les heures, pendant toute la semaine. Et quand ça s'est terminé, la question que j'ai eue le plus, c'est quand est-ce qu'on recommence ça? Il y en a qui voulaient le refaire quelques mois plus tard. C'est tellement que ça avait été un événement riche. Et on n'est pas habitué de voir notre Église dans cette condition-là, c'est-à-dire en mode silence. T'sais, on est habitué, si vous venez là, ben vous venez, vous êtes là, il y a du monde, ça bouge. Et là, on rentrait ici, puis on avait l'impression d'entrer dans une cathédrale. Moi, vraiment, là, je rentrais pour dire qu'on avait envie d'enlever nos chaussures. Il y en a qui le faisaient pour ne pas faire de bruit. Il y avait des gens assis là, puis là, puis là, puis des gens qui étaient prosternés devant Dieu, d'autres qui lisaient, d'autres qui réfléchissaient. J'en ai même vu dormir aussi. pourquoi pas? Et c'était vraiment un moment très, très riche. Alors ça, on a fait ça l'année passée, et c'est certain qu'on va le refaire l'année qui vient. La seule chose qu'on va avoir à décider, est-ce qu'on le fait au mois d'août, ou est-ce qu'on fait ça plutôt avant l'été, début juin, là, tu sais, quand c'est... L'été n'a pas tout à fait commencé. Fait qu'on fera un petit sondage pour voir qu'est-ce que les gens préféreraient. On a eu encore l'année, en 2016, notre convention annuelle qui a eu lieu en Gaspésie. Beaucoup de gens se sont déplacés en Gaspésie. Il y a eu l'ouragan également, j'en parlais tout à l'heure, l'ouragan Matthew, qui a soulevé beaucoup, beaucoup d'activités ici, de ramasse de fonds à travers le concert du groupe Héritage, mais également des collectes qui ont été faites. J'ai reçu le chiffre tout à l'heure de ce qui a été ramassé au total. Je ne vous le dis pas tout de suite, mais tout à l'heure, c'est très, très intéressant. Évidemment, il y a eu en fin d'année le souper théâtre juste avant les fêtes. Encore là, beaucoup de gens sont venus. Il y a eu également au mois d'octobre, le déguisement de nos voitures à la fête de l'Halloween que nous, on récupère encore là pour entrer en relation avec le quartier. Encore beaucoup de gens avec leurs enfants dans le quartier sont venus. C'est vraiment une occasion de rencontrer des gens, de jaser avec eux, d'échanger, de leur donner un café, un chocolat chaud pour qu'ils se réchauffent. Donc, il y a eu tout ça. Est-ce que j'ai oublié des affaires? Je suis allé au pif de même parce que je n'avais pas trop de temps à mettre là-dedans. Bon. En 2017, il y a Michel qui a mentionné tous les cours bibliques qui vont se donner à partir de la semaine prochaine. En fait, à partir de vers la semaine du 20, là, dans ce coin-là, ça va commencer. Mais je vais vous parler de certaines nouveautés cette année. D'abord, il va y avoir un nouveau site Internet qui va entrer en fonction très, très prochainement. C'est Jean Famy, la semaine prochaine, qui va venir... prendre un petit 5-6 minutes pour vous montrer le nouveau site Internet La Bible parle, qui est vraiment rehaussé par toutes sortes de nouveaux moyens techniques que je comprends pas et qu'il vous expliquera lui-même. Donc ça, c'est une nouveauté. Autre chose, cette année, Haïti, je vous parlais d'Haïti, j'ai demandé à Emeline, qui est la secrétaire et la financière du comité d'Haïti, de me donner les chiffres pour cette année sur le plan financement. Et j'en reviens pas, moi, du chiffre qu'elle m'a envoyé, là. Pour la reconstruction, donc strictement la reconstruction, tous les dons qui ont été ramassés, on a reçu des dons de l'extérieur, de beaucoup de gens de d'autres églises, de gens d'affaires, même pas croyants dans certains cas. Les dons total, c'est 238 000 $ qui ont été ramassés pour Haïti. C'est vraiment de l'argent, ça. Et s'ajoute à ça l'autre partie budget, tout ce que ça coûte aller en Haïti, les billets d'avion et toutes les dépenses qu'encourt Haïti, c'est 243 000 $ cette année de budget pour Haïti. Donc, le total, c'est 480 000 $ qui est investi en Haïti cette année. Fantastique, non? Tu sais, quand on parle d'efforts missionnaires, de rejoindre par l'Évangile des gens, de faire en sorte que le message sorte, il faut comprendre que dans notre Église, On s'est spécialisé surtout vers l'extérieur. On est moins actif sur le plan humanitaire ici au Québec parce que c'est un choix historique qu'on a fait qui était, on peut pas être partout. Donc, puisqu'on peut pas être partout, on va être quelque part de très précis. Donc, c'est en Haïti et en Afrique que nous sommes. Cette année, en termes de nouveautés également, il va y avoir une convention missionnaire. C'est quelque chose qu'on n'a jamais fait depuis qu'on existe, c'est-à-dire qu'on a notre convention, la Bible parle annuelle, qui se tient toujours à l'Action de grâce. Et cette année, on ajoute une deuxième convention qui va se tenir le 29 avril prochain. C'est une convention missionnaire. Donc, ça va se tenir ici à l'Église, ça va être annuel, à chaque année, ça va avoir lieu. Donc, un samedi, pendant toute la journée, on va se parler de mission. Donc, pasteur Clermont va être ici avec l'équipe d'Haïti. Mais là, ça va être pour donner des comptes rendus, puis des nouvelles, puis une vision toujours plus précise. Donc, c'est comme si on prenait le temps pendant une journée de s'en parler comme il faut, de s'en parler complètement. Donc, concernant Haïti, notre missionnaire, qui est Stéphane Odena, et sa femme Pascal, à partir de cette année également, il va y avoir une lettre de nouvelles qui va nous être donnée aux 2 mois et qui va vous être envoyée, qui va être mise sur notre site Internet. Donc, on va avoir plus de nouvelles précises de notre missionnaire là-bas. Donc, ça, c'est pour Haïti. Le 29 avril, donc, ça va être la convention missionnaire. Il y a également, on va parler beaucoup d'Afrique dans cette convention-là, pasteur Kudjo, qui est notre pasteur, qui lui n'est pas un missionnaire, mais qui est au Bénin, on le fait venir ici avec sa femme également. Donc, ce week-end-là, il va être ici pour cette convention-là. Donc, il va avoir un volet Afrique, puis il va avoir un volet Haïti. Donc, ça va être tout un week-end et ça va culminer le dimanche par une prédication, probablement pasteur Jeff, qui va nous pondre une prédication en feu pour la mission en général. Donc, ça, c'est le week-end du 29 avril prochain. Autre nouveauté cette année, ça va commencer dans 2 mois, c'est des matinées théologiques. Qu'est-ce que c'est que cette affaire? C'est que il y a à peu près 2 ans de ça, j'ai approché les professeurs de la faculté de théologie, Dr. Jabella, Mayne Vedman, il y avait pasteur Jeff, puis d'autres. Et moi, je leur avais proposé de leur donner une occasion de sortir de la boîte. C'est-à-dire que la faculté, c'est un lieu, c'est un endroit, c'est un... Il y a des chrétiens au Québec qui ne savent pas que ça existe. Ils ne savent pas qu'il y a une faculté de théologie de niveau universitaire qui remet des diplômes universitaires reconnus. Il y a ça ici à Montréal. Et nous, la Bible parle, on est beaucoup, beaucoup impliqués. Pasteur Jeff est le directeur ou président ou... président, ouais, de la faculté. Docteur Mayne Vedman, qui est membre de notre église, est le doyen de cette faculté. Donc, moi, je leur disais, un des moyens de faire connaître la faculté, ce serait de faire communiquer les docteurs de la faculté en dehors des lieux de la faculté, donc de créer des événements dans lesquels ces gens-là seraient appelés à nous parler de certains sujets dans l'angle théologique, mais des sujets qui ne sont pas du domaine de l'inquiétude des théologiens. Parce que, avez-vous déjà mangé avec 2-3 théologiens? Moi, ça m'est arrivé. Et avant que j'aie fini ma soupe, je ne comprenais plus trop de quoi il s'agissait. c'est fascinant, mais vous savez, ils ne peuvent pas s'empêcher d'entrer dans des zones de débat entre eux, parce qu'ils sont d'accord à 97-98% et croient les mêmes choses, mais ils s'intéressent eux autres en particulier aux 2-3% de différence. C'est toujours fascinant de les entendre. Et là, ça va chercher des virgules, puis des détails, puis des trucs dans l'Ancien Testament, puis tel point, puis ils sortent des noms longs de même. T'es là, OK, d'accord, très intéressant. Puis ça l'est. Mais moi, ce que je leur ai expliqué, j'ai dit, par contre, dans une église, les inquiétudes des gens, parce que 99% des chrétiens ne sont pas des théologiens. Donc, ce sont des gens qui ont des enfants, qui sont mariés, qui vont travailler, qui ont des maisons, qui ont du gazon à tondre. Eux autres aussi, ils tondent du gazon, je suis pas mal sûr, là. Mais qui ont des réalités, des problématiques de vie, des problèmes de couple, des problèmes avec des enfants, des problèmes de travail, des problèmes d'argent, des problèmes de santé. Tous ces zones de problèmes-là, ça serait intéressant d'inviter des théologiens pour venir nous en parler. Donc, j'ai suggéré, il y a 3 semaines, j'ai eu une deuxième rencontre avec eux, et ils étaient tous là, c'était fantastique. Il y avait le Dr Dan Temer qui était là, il y avait Dominique Anger, Pasteur Jeff, Dr Fedman, Dr Amar Jabala, il y avait Pasteur de l'île Jésus, Pasteur Bonicelle qui était là, il y avait celui qui s'occupe de l'histoire. Bref, ils étaient tous là, puis là, je leur ai expliqué toute cette vision-là, puis ça les intéresse vraiment. Donc, on va commencer, ça va durer 2 heures, ça va se passer des samedis matins, ça va probablement se passer ici surtout, ça va être diffusé sur le web, ça va coûter rien. Et une question va leur être envoyée une semaine avant et ils vont devoir nous répondre à des questions. Comme, je vous donne un exemple, ça ne sera pas des questions compliquées, ça va être des questions qui nous touchent nous autres. Comme une des questions, c'était « Qu'est-ce que ça veut dire le monde? » Tu sais, je retourne dans le monde, ça c'est du monde, faut pas être dans le monde. Vous savez, le monde, c'est-tu le monde quand vous achetez une voiture fabriquée par des non-croyants, vous êtes dans une voiture fabriquée par des gens du monde? Tu sais, il y a des chrétiens qui sont maniaques dans le monde, C'est quoi ça, le monde? Ça commence où? Ça finit où? On est où, nous autres, par rapport... Moi, je trouve ça super intéressant. J'aimerais ça que des théologiens viennent nous démêler ces concepts-là. Donc, c'est quoi une église? Vous pensez qu'on sait ce que c'est une église? Parlez à 25 chrétiens de 25 dénominations différentes, vous allez avoir 25 explications différentes. Donc, on va faire venir des théologiens, on va dire, dites-nous, c'est quoi une église, en fait? Donc, ça va être des questions qui vont être... très proche d'une réalité d'église. Et donc ça, c'est un nouveau projet. Moi, j'ai vraiment hâte que ça commence à faire là. Ça va vraiment être béni. Vous pensez pas? Bon. En 2017 également, ce qu'on va faire, on va continuer à s'intéresser à nos projets d'implantation. On a 3 églises qu'on chapeaute ici. Sherbrooke, Québec, La Chute. Chacune de ces églises-là sont suivies de très, très près. Moi, je m'occupe des 3 jeunes pasteurs en formation. Répond à leurs questions, on va les remplacer des fois, on les rencontre, on les aide à se structurer de plus en plus. Nous, on a toujours des églises à croissance lente, c'est un choix qu'on a fait. On veut pas absolument que ça grandisse vite, on veut que ça se stabilise plutôt autour d'un groupe de gens qui ont envie de se donner pleinement cette œuvre-là. Donc, il y a ça qui se passe, on projette, on a un œil sur le centre-ville de Montréal aussi pour débuter une assemblée là-bas. En 2017, c'est pas sûr, c'est comment Dieu va diriger les choses. Il y a peut-être sur la rive sud également, n'est-ce pas Claude? Tu dis pas amen à ça, mais je m'attendais à ce que... Claude, il me talonne depuis 4-5 ans pour ça. Non, mais c'est une bonne idée. Sur la rive sud, on a un peuple nombreux sur la rive sud, donc on aimerait probablement... Donc, gardez ça en prière, c'est des projets. On a des jeunes, on a des gens qui se forment tranquillement, pas vite, et puis qu'on aimerait les placer dans l'exercice de l'implantation d'église. Venons-en maintenant. Notre Église compte plusieurs ministères qui nécessitent l'implication, la participation de beaucoup de personnes, et c'est une grâce immense. Avant qu'on passe au PowerPoint que j'ai créé, j'aimerais vous remercier personnellement, puis au nom de tous ceux qui administrent cette Église-là, on est 30 personnes environ, si on compte les 5 anciens, plus tous les diacres, ceux qui s'occupent du côté administratif et financier, et ceux du CA qui s'occupent plus de toute l'activité de l'Église, ses responsables, ses ministères, on est environ 30. Donc, en leur nom, on vous remercie parce qu'on est dans une Église où les gens sont très fidèles, et notamment financièrement. Il y a 2 ans, on avait eu un creux, à un moment donné, on vous avait parlé de ça, on a fait des prédications là-dessus. Et dans les semaines qui ont suivi, on a vraiment vu, Christine nous le montrait de façon très évidente, une remontée des revenus dans l'Église. Et ça, c'est vraiment, vraiment une bénédiction. C'est béni de pouvoir amener un enseignement, une instruction et de sentir qu'il y a une réponse. Moi, suite à ça, je me dis, OK, les gens écoutent. Parce que, c'est pas parce que je doutais tellement de la chose, c'est juste que on le sait pas si bien jusqu'au moment où finalement une prédication comme ça, qui est assez concrète, suscite une réponse qui là est chiffrable. Et là, ça devient une évidence fantastique. Et une des particularités du don, que ce soit les dons financiers, mais le don de soi-même dans l'implication, c'est probablement la façon la plus juste d'évaluer notre réelle adoration. C'est-à-dire une adoration qui ne se fait plus en mots, mais en gestes concrets. L'apôtre Paul, je crois que c'est Paul, c'est-tu Jean, il disait de ne pas aimer en parole seulement. Donc, c'est très, très facile de lever les mains dans les airs, puis de louer Dieu, puis de rendre grâce pour sa fidélité, puis tu sais, d'être extrêmement extasié devant Dieu, puis c'est béni de le faire, mais est-ce que c'est accompagné de gestes concrets et d'un don de soi-même? Parce que une des particularités des gens qui ont été sauvés par la grâce de Dieu, c'est d'avoir de la reconnaissance. Et cette reconnaissance-là, c'est comme une transpiration, ça sort de nous. On veut être là, on veut être participant. C'est toujours fascinant, ça m'est arrivé 2-3 fois cette année, des très jeunes croyants qui ont été sauvés dans les mois précédents, qui aboutissent dans mon bureau, puis qui ont des questions sur l'Église, puis qui sont contents d'être sauvés. Et je vous dis, là, qui me disent, moi, je veux donner à l'Église. C'est combien? Ils ne savent pas, eux autres, là. Combien on donne? C'est où? C'est comment ça marche? Moi, je suis toujours, wow! C'est comme, écoutez, réalisez-vous que donner une offrande à notre Église, c'est se priver de bien pour soi-même. Ceux qui donnent, vous le savez, quand on donne, on se prive peut-être d'un voyage qu'on aurait voulu faire, peut-être d'une voiture plus récente, peut-être une plus grosse maison. C'est clair que nos offrandes et nos dîmes affectent nos vies personnelles. Et c'est normal que ça fait ça. Et c'est un fruit extraordinaire de préférer être affecté parce qu'on est redevable, on est reconnaissant à Dieu et on veut que l'œuvre de Dieu soit riche, qu'elle survive, qu'elle aille de l'avant, que le message sorte, que tout ça puisse exister. Pasteur Jeff, la semaine passée, dans son message, il disait, et je pense que c'est vraiment intéressant, il disait, on ne peut pas dire dans le Nouveau Testament ou dans l'Église que la dîme est une chose obligatoire comme elle l'était dans l'Ancien Testament. C'est pas tout à fait la même chose. La dîme dans l'Ancien Testament exprimait également le paiement d'impôts de toutes sortes. Et nous, ici au Québec, au Canada, en Occident, on paye déjà des impôts au gouvernement, donc on peut pas s'amener avec les mêmes chiffres, de la même façon, avec la même rectitude. Donc, l'idée étant que, est-ce que c'est obligé de donner dans le Nouveau Testament? Bien, vous n'avez aucun texte qui oblige personne à donner. Mais vu que c'est pas obligé, c'est encore donc plus significatif. Si c'était obligé, légalement, de donner, on pourrait donner, mais ça serait pas forcément le cœur vivant de donner. Mais quand c'est pas obligé que tu pourrais tout garder pour toi, mais que tu décides de volontairement donner, ça s'appelle un sacrifice de bonne odeur. Devant Dieu et devant les hommes. Ça a encore plus de valeur, je pense. Donc, si vous voulez, on va passer maintenant à la projection. Et je vais nommer certains leaders de l'Église. Quand je vais vous nommer, si vous êtes ici, levez-vous. J'aimerais que les gens vous voient. Parce que on se rend compte des fois qu'il se peut que vous veniez ici depuis quelques mois et que vous ne sachiez pas qu'il existe une certaine activité ou un certain ministère et qu'à cause de ça, ben, vous passer à côté de quelque chose qui pourrait vous intéresser, vous et vos enfants. Donc, statistique, la Bible parle Laval. Allons vers la prochaine. Dans notre Église, on a comptabilisé 25 nations différentes ici. On s'en était jamais rendu compte jusqu'à ce qu'on se mette à calculer les gens, d'où ils viennent. Évidemment, les Québécois de souche sont certainement majoritaires, mais la communauté haïtienne est très importante dans notre Église du fait, évidemment, qu'on travaille en Haïti, qu'il s'est créé là-bas des amitiés, puis une relation, puis une communion fraternelle avec la communauté haïtienne du Grand Montréal. Donc, il y a la communauté africaine également qui est assez importante. On va en Afrique, donc les communautés africaines sont là aussi également dans notre Église. Mais il y a des gens qui viennent de partout, des 5 continents dans notre Église. On va le dire sur le nouveau site Internet. Probablement qu'on va même nommer les nations. Ce serait intéressant de savoir. Il y a des gens d'Amérique du Sud, de plusieurs pays d'Amérique du Sud, de plusieurs pays africains, de plusieurs pays européens. On a même des Américains. Debbie Hurto. Et peut-être d'autres. Je pense qu'il y a Danny aussi, hein? Danny, le mari à Nathalie Lorrain, qui est américain. Bref, on a des gens de partout sur la planète. Et ça, c'est une grande bénédiction parce que, vous savez qu'ici, on ne croit pas aux églises ethniques. On est pratiquement contre cette idée que les ethnies se rassemblent en ghetto entre eux dans un pays quelconque. C'est presque contraire à l'esprit du Nouveau Testament où Paul, dans son temps, a travaillé très fort à briser cet esprit où les Juifs préféraient être ensemble. L'Église était constituée, devait l'être de Juifs, de païens, de Grecs, de Romains, de barbares, de toutes sortes de gens. Et c'est ça la beauté de l'Église, des gens de tout peuple, de toute nation, de toute langue vont l'adorer selon le livre de l'Apocalypse. Et une des grandes victoires d'une Église, c'est d'être capable de réunir des gens de toutes sortes de pays, de nationalités, d'ethnies, de couleurs, de langues différentes, et que ces gens-là vont faire une seule personne en Jésus-Christ. C'est fantastique. C'est passé par-dessus toutes les guéguerres, puis les niaiseries, les racismes, les mépris qui sont ici-bas sur terre entre nous. Dans l'Église, ça n'a pas lieu, ces questions-là. C'est la victoire de Jésus-Christ qui trône au-dessus de toutes ces réalités-là. Deuxième, École du dimanche, ministère dirigé par Alain Fréchette. Il ne doit pas être ici, Alain et Janine. Il y a 37 personnes qui s'impliquent dans ce ministère-là, pour un total d'environ 100 enfants. Pour eux, c'était difficile de me donner le chiffre juste. Il y en avait à peu près 75-80 par semaine, mais au total, à chaque mois, c'est une centaine d'enfants différents qui fréquentent ce ministère-là. Il y a le ministère des ados avec Benjamin Saint-Laurent. Benjamin est là-bas. Tu veux te lever, Benjamin? Benjamin, donc, dirige le ministère. Ils sont 11 personnes, 11 moniteurs et 55 jeunes qui fréquentent ce ministère-là. Il faut savoir qu'entre l'école du dimanche et le secteur, c'est pour ça que j'appelle ça le secteur jeunesse, l'école du dimanche a perdu un peu l'année passée, mais a perdu au profit du ministère des jeunes. Une couple qui ont dépassé 12 ans, ils se retrouvent dans l'autre. Donc, 55 jeunes à tous les vendredis soirs ici. Donc, si vous avez des questions, vous avez des jeunes, allez voir Benjamin, puis posez-lui des questions, savoir quand, comment, où ça se passe. Prochaine diapo. ACRN, ça, c'est notre école chrétienne qu'on a ici. France Robitaille, la plus belle femme ici. Je suis très objectif. Et 22 enfants fréquentent notre école. L'école biblique également et la FT, Faculté Théologie Évangélique, on gère beaucoup de choses avec eux autres ici. Il y a 15 personnes, donc c'est le staff qui gère notre école biblique et ceux qui donnent des cours bibliques, c'est un total de 15 personnes. Prochaine. Gestion de l'Église, ça, ce sont tous des ministères en relation avec la gestion. Donc, ministère des Finances, Christine Talbot-Réel. Est-ce qu'elle est là, Christine, aujourd'hui? Elle n'est pas là. On va faire le lever son mari, d'abord. T'as pas ta chemise rose, aujourd'hui? C'est-tu passé quelque chose? Non,
OK, c'est bon.
Donc, 7 personnes directement reliées à Christine, ça, c'est qui compte vos dîmes, vos offrandes, qui font tout ça là, le dimanche. Le conseil d'administration, appelé le CA, dirigé par Jean-François. Est-ce que tu es là, Jean-François? Il n'est pas là aujourd'hui? OK. Ben, son épouse est là. Tu veux-tu te lever à sa place? Bon, c'est ça. Hélène. Donc, Jean-François fait un travail fantastique. On est 7 là-dessus. Moi, je fais partie de ce comité-là. Il y a également le comité exécutif. Ça, c'est ma tâche à moi. On est 12 personnes là-dessus. Donc, ça, c'est les dirigeants de ministère, des ados, d'école du dimanche, de l'accueil, tout ce qui se passe dans l'Église. On a des rencontres à toutes les deux semaines, le jeudi soir. Donc, on est toujours très, très près de l'activité qui se passe dans notre Église à travers le conseil exécutif. Si vous entendez parler du CE, c'est la même chose. Donc, conseil d'administration et conseil exécutif, on donne des noms officiels à ça, mais c'est l'équivalent des diacres. C'est pas grave qu'on n'utilise pas le mot diacre, c'est juste un mot que Paul a lui-même emprunté au monde de l'administration des villes grecques de son temps. Il n'y a pas de mot saint et religieux, il y a juste des mots pour dire des choses. Hein? C'est ça de même. Là. Les anciens, on est 5, c'est moi-même, pasteur Jeff, pasteur Claude, pasteur Pierre, pasteur Alain, qui composent le groupe des anciens de notre Église. Donc ça, c'était pour la gestion d'Église. Services pastoraux, les retraités. On a tous les jeudis matins à 10h une rencontre de retraités. C'est Normand Lemay et Carole. J'ai vu Normand tout à l'heure, mais il est peut-être... Est-ce que sa femme est en haut, hein? Oui, Carole est là-bas, Carole Lemay. Donc, Carole et Normand, il y a Claire Ouellette qui est beaucoup impliquée dans ça. Donc, ils sont 5 personnes dans l'équipe qui s'en occupent et il y a une 50aine de personnes qui participent à tous les jeudis. Donc, si jamais vous n'aviez pas entendu parler que les retraités se réunissent une fois par semaine ici, allez voir Carole. Carole, tu veux te lever pour que les gens te reconnaissent? Vous allez voir Carole. Et le lunch est gratuit, je vous dis ça de même. Et c'est Jocelyne qui fait la bouffe. C'est Jocelyne qui fait... Jocelyne, t'es où? Lève-toi, Jocelyne. Quand Jocelyne fait de la nourriture, c'est bon. Son mari est un chef, d'ailleurs, cuisinier, donc c'est bon. Elle, là, avec une pièce, c'est étonnant. Ce qu'elle, elle ne vous fera pas des sandwichs au croton. Elle va trouver le moyen que ça devienne de la cuisine. Hein? Donc, juste pour ça, ça va à peine. Donc, jeudi matin. La pastorale, ici, ça ne parle pas des pasteurs en particulier, mais la pastorale, c'est tout ce qui sont domaine des soins pastoraux. Donc, la cure d'âme, les coupes, préparation au mariage, il y a plein d'affaires là-dedans. Les gens en besoin, les gens malades, tout ça. C'est une équipe d'environ 20 personnes qui s'appliquent à ça dans notre Église. Je peux pas vous donner le nombre de personnes qui sont atteintes et rejointes par ça, mais c'est pasteur Claude Urteau qui s'en occupe et beaucoup Claire Ouellette. Claire, est-ce que tu es là? Claire Ouellette, fais un travail, Claire. Là, c'est incroyable tout ce qu'elle fait dans notre Église. Merci, Claire. Claire est souvent la porte d'entrée de l'information qui nous parvient des gens qui ont des besoins. C'est souvent Claire qu'on va voir, donc c'est parfait. La vie de l'Église, ça, c'est ce qui se passe dans notre Église même. Donc, on a des groupes maison qui ont lieu d'ailleurs en ce moment. Il y en a 11 au total. Emmanuel me disait qu'au total, c'est plus ou moins 100 personnes. C'est difficile de donner un chiffre très précis, mais il y a 8, 10, 12 personnes par groupe environ. Si jamais vous souhaitez vous joindre à ces groupes-là, est-ce qu'Emmanuel est là? Emmanuel n'est pas là. Vous avez de toute façon à l'arrière de l'information sur le mur. C'est intéressant. Ça a lieu l'hiver. Quand l'école biblique commence, ça arrête et ça reprend vers le mois de mai. Juin, juillet, août, pendant les mois d'été. Donc, il n'y a pas de rencontre ici le mercredi. C'est des groupes maison. Donc, si vous voulez de l'information, on va vous en donner. Donc, ça inclut 11 responsables et une 100aine de participants. Ensuite, on a le ministère de l'accueil, probablement le plus lourd en termes d'implication. C'est Luc Flageol. Où es-tu, Luc? Ah, Luc, oui, là-bas. Luc fait un travail extraordinaire. 60 personnes qu'il doit gérer. Bravo, Luc. Merci beaucoup. Ensuite arrive un autre ministère assez lourd, celui de la cafétéria avec Mélanie Comtois-Tardif, qui es-tu ici? Elle est en cuisine. Donc, il y a 45 bénévoles dans ce ministère-là. 45 bénévoles, il y a comme un roulement là, chaque semaine. Et environ 120, et on peut dire des semaines que 150 personnes qui participent, qui vont manger à la cafétéria. On vous encourage à venir. Et si vous n'avez pas d'argent, c'est pas important. Beaucoup de gens amènent leur lunch, je le fais moi-même. Donc, le but, c'est pas de manger à la bouffe qu'on vous vend. Là. Le but, c'est d'être ensemble, communion fraternelle. Donc, voilà pour ça. Les rencontres de prière. Il y a 71 personnes au total qui participent aux rencontres de prière. Là, on n'est pas en train de dire qu'il y a 71 personnes qui prient. Il y en a beaucoup plus que ça. Mais on parle des rencontres qui ont lieu ici, exclusivement dans notre bâtiment. Donc, à tous les deux semaines, ça avait lieu ce matin d'ailleurs, il y a les hommes en prière, pasteur Yves Brousseau s'en occupe, sont 10-12 à chaque deux semaines. Il y a les femmes en prière avec France Robitaille, aux deux semaines aussi, qui alternent une dizaine de personnes. Il y a à tous les dimanches prière pour le culte avec Denise Dallaire. Es-tu là, Denise? Elle s'est blessée un bras, hein, ça ne peut pas être là, malheureusement. Il y a les dimanches, une fois par mois, il y a une rencontre de prière pour les pères dont les enfants vont à notre école. Et là, j'ai pas pu mettre son nom au complet. C'est Marc-André Van Der Meer. M-A-V-D-M, son nom. Il a fallu qu'il élargisse la longueur des chèques pour lui. C'est vraiment long comme nom. Donc, non, mais c'est vraiment béni. Ce sont 3, 4, 5 personnes qui y vont. Le lundi soir, pour l'église, il y a Éric Van Der Meer. Son 7-8. T'es où, Éric? Tu veux te lever? S'il y en a qui veulent se joindre à tous les lundis soirs, c'est à quelle heure, Éric? À 6 heures ici. C'est-tu en bas, en haut? Dans la mairie, donc vous pouvez... Les gens rentrent par là? Ou par là, par là? Donc, 6 heures le lundi soir, une rencontre de prière assez large pour toutes sortes de besoins. Les mercredis matins, c'est à 9h30, hein? C'est à 9h30 à 10h, il y a une rencontre de prière pour tous ceux qui veulent. C'est prière surtout pour l'évangélisation, notamment. Il y a 12 personnes, c'est Rosie-Claire. Ronnie, tu veux te lever? Pour que les gens sachent chez toi. Si vous voulez de l'information, allez le voir. Tous les mercredis matin, ça a lieu ici. Il y a le groupe de prière secret ou prière d'urgence Denise Dallaire. Ça, c'est un groupe de gens de l'Église à qui on envoie des requêtes urgentes et spéciales. Denise, on ne sait pas c'est qui les 15. C'est des francs-maçons, peut-être. C'est pas. Tout ce qu'on peut dire, c'est que c'est des intercesseurs. C'est comme si Denise a réuni autour d'elle les gens pour qui prier, là, c'est un besoin. Ils aiment ça, eux autres, là. Ils nous garantissent la discrétion. Donc, des fois, il y a des gens qui vivent des temps difficiles, qui ont vraiment besoin d'être supportés en prière. On fait pas connaître ça à tout le monde. On fait connaître ça à Denise. C'est envoyé à 15 personnes et ça sortira jamais de leur intimité à eux. Donc, 15 personnes qui font ça, c'est vraiment un outil fantastique. Donc, au total, il y a 71 personnes. Si jamais ça vous intéresse de vous joindre, vous avez toutes sortes de possibilités de jours, d'heures, de façons différentes de vous joindre à des groupes de prière dans notre Église. En passant, le chiffre 71, il est un peu gonflé parce que Denise, à elle seule, en vaut 3-4. Je peux vous dire, c'est important de le mentionner. Mission. Pasteur Clermont, évidemment, la mission dépend pas directement de notre Église. C'est Pasteur Clermont à Mont-Joli qui s'en occupe, mais c'est quand même un ministère de notre Église. Avec lui, 6 personnes sur le comité Haïti. Et de notre Église, là, ça inclut pas les autres Églises à Ville-la-Parle. Moi, j'ai compilé les gens de notre Église. C'est 50 personnes environ, selon ce que Michel me donnait comme chiffre. 50 personnes qui, généralement, vont en Haïti dans notre seule Église ici. L'Afrique, Monsieur Paul Tremblay, je ne sais pas si Paul, vous êtes là. Il n'est pas là. Ah, il est parti au Mexique, c'est vrai. Donc, 6 personnes sur ce comité-là, j'en fais partie moi-même. Et on est une quinzaine de personnes ici dans notre église qui allons en Afrique. On n'y va pas les 15 à chaque fois, mais on est environ 15 personnes qui vont en Afrique une fois aux 2-3 ans environ et qui s'intéressent à l'Afrique. Et il y a le comité des missions dirigé par Sylvain Perrault. Donc, c'est un peu le ministère qui gère un peu les finances, le ramassage de fonds, les billets, tout ça, là. Sylvain Perrault. Conseil d'administration des missions, qu'on devrait dire. Bon. Donc, Sylvain Perrault, 16 personnes sur ce comité-là. Continuons. Les ministères variés. Ministère des prisons avec Pierre Baillargeon. Est-ce que Pierre est là? Il n'est pas là aujourd'hui. Donc, on va dans deux prisons différentes. Pierre Baillargeon, 20 personnes qui s'impliquent avec lui. Ministère des louanges avec Sylvain Turgeon. Merci Sylvain, fais un bon travail. 26 personnes, musiciens, choristes, techniciens, tout ça. Le camp de jour qui a lieu l'été, ici, Elisabeth Réal, ils sont 4 moniteurs, 4 employés, eux autres, c'est des employés salariés qui travaillent là. Il y a la régie technique. Es-tu là, Elisabeth? Pas debout. Ah, Elisabeth, allô? T'as donc bien un gros manteau, t'as-tu fret? C'est écoute. OK. Régie technique, Donald Asselin. Donald, c'est celui avec la. C'est Barbichette qui prend le Wi-Fi avec ça, lui, sérieux. Je peux pas m'empêcher. Donc, Donald, 8 personnes. Donc, c'est 8 personnes qui permettent à notre église d'être diffusée sur Internet. Puis c'est toute la régie technique qui est gérée pendant la semaine, font un travail fantastique. Ça fait combien d'années qu'on est diffusé sur Internet? Ça fait quand même pas mal longtemps, là. Quasiment 8, 9, 10 ans. 8 ans. Tu sais, dans le temps que ça bloquait, là, tout le temps, ça, on était là. Bon. Il y a le bâtiment, pasteur Claude Urteau, une dizaine de personnes, c'est l'entretien, les réparations. Lui, il est en charge de s'assurer que tout ça fonctionne. Une autre, c'est la dernière. Donc, si on additionne tout le nombre de personnes qui sont impliquées, on arrive à 405 personnes, mais c'est pas tout à fait un vrai chiffre. Il y a des Denise Dallaire qui comptent pour 5 personnes à elles seules. Moi, je suis dans une couple d'affaires aussi. Donc, il y a plusieurs personnes qui sont en double là-dedans. Donc, on pourrait enlever facilement 25 % ce chiffre-là et arriver à peu près à 300 personnes dans notre église qui s'impliquent dans des ministères. Ce ne sont pas tous des ministères qui impliquent à chaque semaine nécessairement, mais ce sont tous des ministères qui se produisent ici dans notre église. Alors, c'est en quelque sorte une présentation cette année. Je voulais vous faire voir un peu le visage de l'implication. C'est souvent un problème dans beaucoup d'églises, arriver à intéresser les gens à s'impliquer. J'ai des confrères pasteurs avec qui on s'en parle de ça, puis souvent, c'est difficile. Les bonnes églises arrivent à avoir 10, 12, 15 % d'implication. Nous autres, je ne sais pas quel pourcentage ça donne, là, 300 ou personnes qui s'impliquent dans quelque chose, mais c'est un pourcentage exceptionnellement élevé. Et ça, on va en donner tout le crédit à la bonté et à la grâce de Dieu. Je vais inviter les musiciens, on va faire 3 cantiques ce matin en terminant cette prédication. Et si on devait essayer de comprendre par quel mécanisme ça se produit, ça. Comment on peut faire en sorte qu'une église soit vivante et que les gens aient vraiment envie de s'impliquer comme ça? Dans 1 Thessaloniciens 2,13, c'est un verset que j'aime beaucoup, qui pour moi répond à beaucoup de questions. C'est Paul qui disait aux Thessaloniciens, « C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu qu'en recevant la parole de Dieu que vous nous avons fait entendre, vous l'avez reçue comme, non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle l'est véritablement comme la parole de Dieu qui agit en vous. » Depuis qu'on existe, l'insistance a toujours été mise sur l'Écriture ici. On fait beaucoup de choses, mais on ne s'intéresse pas tant que ça à ce qu'on fait. On préfère s'intéresser à ce que Dieu fait au milieu de nous, de ce qu'il fait en nous et de ce que Dieu fait par nous. Ça, c'est beaucoup plus intéressant. Donc, que toute la gloire vraiment revienne à Dieu, parce qu'on ne sait pas comment faire arriver ça, nous, de toute façon. Mais l'apôtre Paul, ici, mentionne qu'à partir du moment, et c'était vrai pour les Thessaloniciens, où ils reçoivent la parole de Dieu, mais en tant qu'ils la reçoivent comme étant une parole véritablement donnée par Dieu, elle va agir en eux et au milieu d'eux. Et ça, c'est vraiment une magnifique déclaration, une magnifique promesse qu'on va prendre pour nous aujourd'hui. Donc, chantons, si vous pouvez vous lever.